La foi active, c'est notre foi et nous la travaillons. Si je ne travaille pas ma foi, eh bien, je ne vais pas rentrer dans la foi en action. Est-ce que vous me comprenez? C'est bon? La foi active est différente de la foi en action. La foi active, j'y travaille. Et vous allez voir dans le message ensuite. Donc, je vais commencer avec le verset de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Alors, ça, c'est pour faire une petite rétrospective à la semaine dernière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, j'ai laissé tomber mon vieux manteau, tout troué, tout sale, tout... Et j'ai revêtu le manteau de Dieu, la puissance de Dieu en nous, le salut. Le nouveau manteau, c'est le salut. Alors, pourquoi? Nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons rien mérité, mais Dieu est venu à nous dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour moi. Il est mort pour vous. Il est mort pour nous. Amen. Et c'est ce message que nous devons partager autour de nous. Alors, la rencontre avec Christ, qu'est-ce qu'elle a produit en nous? Qu'a-t-elle produit en nous? A-t-elle attisé en nous une soif pour connaître l'amour de Dieu? Et quelle a été ma décision? Alors moi, j'ai rencontré Dieu parce que je vivais dans une famille où Dieu était omniprésent. Mes parents étaient comme moi aujourd'hui. Ils m'annonçaient la parole de Dieu. Mais un jour, à l'âge de 17 ans et demi, je pense, j'ai dû prendre une décision. Où je suis Dieu, ou je suis la foi de mes parents. Et là, quand j'ai décidé de suivre Dieu, c'est parce que j'ai eu une rencontre avec Dieu. Ce n'est pas la foi de mes parents, mais c'est moi qui ai rencontré Dieu. J'ai dit, oui Seigneur, je veux te suivre. Alors, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit en moi la foi. Cette foi, j'ai commencé à la mettre en pratique, à la cultiver, à dire, et j'ai donc commencé à lire sa parole. Je dis, si Dieu, tu écris ça dans ta parole, c'est que c'est vrai. Donc, je veux faire l'expérience. Alors, car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la foi. Vous voyez, quand on commence à croire en Dieu, Dieu augmente notre foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Alors ce don de Dieu, on doit le chérir. On doit le chérir. Alors on parle d'une foi naissante, une foi qui par la suite, elle va grandir. Et elle nous poursuivra cette foi toute notre vie. Toute notre vie. Toute notre vie. Si nous nous abandonnons à Dieu totalement. Si notre foi est absolument faite en Christ, intégrée en Christ. Alors, la définition de la foi en Hébreux 11, qu'est-ce que c'est? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Quel changement cela implique dans notre vie quotidienne? Alors, je dois renoncer à mes anciennes dépendances, quelles qu'elles soient. Quel est le rival dans ma vie? Est-ce que, par rapport à Dieu, je dis par rapport à Dieu, mon conjoint, mes enfants, ma carrière, mon mode de vie, mes réussites, etc. Alors, il est bon de s'arrêter un instant et de dire, Seigneur, quel est le rival à toi dans ma vie? Alors je médite, et je pointe, et Dieu pointe le doigt là. Là, tu vois, tu aimes mieux, tu préfères ton mari à moi-même. Ton mari est une idole pour toi, ou ta voiture est une idole, ou tes enfants sont une idole, alors que c'est moi qui te donne la possibilité d'avoir une voiture, un toit, un mari, une femme, etc. Alors, c'était des choses sur lesquelles on doit s'arrêter et de faire le ménage. Vous savez, moi, je suis la femme du ménage. J'aime bien faire du ménage. Et quand je me mets à faire le nettoyage à la maison, waouh, tout bouge, puis ça sent bon après. Et après, je m'assieds dans mon canapé et je dis, waouh, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Et je suis contente. Même si je suis fatiguée, mais je suis heureuse. Et moi, je pense que Dieu, quand il fait le ménage dans une vie, et quand il voit une vie qui passe de la mort à la vie et qui a fait plein de tout le ménage, et bien il est là dans son grand trône et il dit « Waouh ! Waouh ! Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme ! Qu'est-ce qu'il est beau cet homme ! Qu'est-ce que ses enfants, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! » Il se réjouit, notre Dieu, quand il voit que son peuple, que ses enfants grandissent en lui et ils ont fait le ménage. Alors, je vais vous donner quelques clés. La première clé pour moi sera d'avoir une confiance absolue en Dieu. Pour que notre foi grandisse, il faut avoir une confiance absolue en Dieu. Je m'approprie ses promesses. Je lui fais confiance. Je compte sur sa force puissante. En Jésus-Christ, mon Sauveur. L'apôtre Paul nous exhorte avec les Philippiens, dans Philippiens 4, 13, avec cette parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que ça veut dire? De moi-même, je ne peux rien faire. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans ma vie afin que quand je suis faible, il me relève. Il me donne envie de me battre. Et là, je vais vous donner un petit témoignage personnel. Quand j'étais jeune maman, jeune épouse, ce n'est pas parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne que tout était bien dans ma tête. Hein. Donc, on s'est mariés. J'ai eu un premier enfant, Jérémy. Le deuxième enfant, Virginie. Et on a ouvert une église. Ce n'était pas facile d'être une épouse, une jeune maman et la femme du pasteur. Bon, ce n'était pas facile. Et donc, parfois, j'étais pas très gentille. J'étais pas très gentille avec mes enfants, avec mon mari et même avec les chrétiens. Parce que c'était trop. J'étais sujette à la colère. J'avais des crises de colère. Quand ça n'allait pas, j'étais consciente que ce n'était pas bon. Et aussi, j'étais trop perfectionniste. Alors, vous savez, quand vous avez des petits-enfants, eh bien, votre maison, ce n'est pas impeccable. Hein. Il y a du désordre partout. Et on doit travailler. Alors, je me disais, ouais, c'est moi qui dois toujours ranger derrière les enfants. Ouais, c'est moi qui fais ça, nanana. Et puis, Antoine, lui, va au travail. Et il s'occupe de son église. Et, et puis, ça jasait. Hein. Mais c'était moi. Donc, l'atmosphère à la maison, parfois, elle n'était pas réjouissante. Et ça me causait de gros soucis. Mais entre-temps, Dieu est bon, vous savez. Dieu est bon. Il connaissait mon cœur. Il connaissait aussi le plan qu'il avait pour moi. Moi, je ne connaissais pas trop bien. Hein. Moi, c'était un petit peu pouf, pouf, pouf derrière moi. Hein. Et il m'a donné un cadeau. Il m'a baptisée de son Saint-Esprit. Waouh! Et là, quand il m'a baptisée du Saint-Esprit, c'est parce que j'étais jalouse. Vous allez comprendre pourquoi. Mais elle était jalouse, elle était colérique, elle était jalouse. Tout ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que mon homme se baladait. Et il allait dans des églises, vous savez, il représentait l'église et il voyait ça. Et moi, je ne pouvais pas parce que j'étais à la maison avec mes petits gars, mes petits. Et un jour, il arrive et il me dit, « Tu sais, là-bas, le père un tel, il a été baptisé du Saint-Esprit. » C'était un curé catholique. Oh, la jalousie est montée en moi. Ouh, et ça bouillonnait. Il a dit, lui, un père catholique, il a été baptisé du Saint-Esprit. Moi, élevé dans la vie charismatique, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que c'est ça, oh Dieu ? Mais j'ai crié comme ça. J'étais jalouse. Ouh ! Et vous savez quoi ? Un de ces quatre, je vais au culte. Et je m'assieds. Antoine gardait les enfants ce jour-là, à la maison. Il gardait les deux petits, là, Jérémy et Virginie, à l'époque. Et moi, je suis partie au culte. Je me suis assise. Bon, sans plus. Et puis, maman arrive. Et elle ne s'assied jamais à côté de moi, ma mère. Jamais. Et là, ce jour-là, elle s'assied à côté de moi. Je me dis, mais pourquoi elle s'assied à côté de moi? J'étais mal à l'aise. Bon, le culte se déroule. Après, le prédicateur fait un appel pour le Saint-Esprit. Et là, sans que je m'en rende compte, il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Je sens un vent qui... Je sens le vent. Mais je sens le vent. Ce n'est pas ma mère qui fait avec un éventail. Non, non, ce n'est pas elle. Mais il y a du vent. Et puis, j'ai commencé à prier comme jamais j'avais prié. C'est tout. Et je suis rentrée à la maison. Et le prédicateur, lui, a été plus rapide que moi. Il est rentré à la maison, il est venu chez moi. Il est parti voir Antoine. Et il dit, Antoine, tu sais, ta femme, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et moi, j'arrive ensuite. Et il me dit, ah, t'as été baptisée du Saint-Esprit. J'ai dit non, non. J'ai tout simplement prié, avec ferveur. C'est tout. Elle dit, si, je t'ai entendu. J'ai dit, non, tu te trompes. C'est comme ça, hein. Monsieur Nocex, c'était comme ça, hein. Et donc, il a laissé tomber, parce qu'il a vu que j'ai quand même un caractère assez fort. Donc, il a vu que ce n'était pas la peine de discuter. Donc il... Mais dans le courant de la semaine, je mettais mes enfants, mes petits-enfants à la sieste, et cette annonce du prêtre qui a été baptisé du Saint-Esprit ne me laissait pas tranquille. Alors j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux que ça se manifeste en moi. Et je sentais en moi un bouillonnement dans mes entrailles. Et je me suis mise à genoux à côté du lit de Virginie. Et là, ma bouche s'est ouverte et j'ai commencé à parler en langue. Et pour moi, j'ai dit, bah, Seigneur, merci, j'ai reçu mon cadeau. Malgré mes faiblesses charnelles. Et à la suite de ça, on est allé à un autre culte, à un culte dans une église qui n'était pas la nôtre. Et j'étais aussi une fille orgueilleuse. Alors aujourd'hui, vous allez savoir tous mes défauts. Du passé, hein, du passé. C'était pas orgueilleux, c'était fier plutôt, fier. Je ne m'exprimais pas sur mes faiblesses, je confessais pas. Mais ce jour-là, au culte, c'était à l'église de Reims, boulevard de Reims, à Roubaix, le pasteur donne son message et il m'a parlé droit au cœur. Il a fait un appel et Madame Christiane, fière, elle n'est jamais sortie à un appel parce que ça ne me concernait pas, au fait. Ça ne me concernait pas. Et là, j'ai mis ma fierté dans ma poche. Parce que j'étais malheureuse. Dans le fond de moi, j'étais malheureuse. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas trop mettre le doigt où il fallait le mettre. Et je suis sortie à cet appel. Et le pasteur, un bon pasteur, me dit, c'est pourquoi ? Alors je lui dis, tu sais, j'ai des crises de colère. J'aimerais te libérer de la colère. OK ? Et il prie, mais tout simplement. Et là, il me donne, il me prophétise. Et il dit, tu auras la foi pour des actes nouveaux. Oh, merci. Merci. Puis je m'en vais. Je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire ça pour des actes nouveaux? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, mais Dieu, il y a eu de la difficulté avec moi, vous savez. Il y en a encore. Donc, je repars quand même à ma place. Je suis troublée. Et la vie continue. Mais si je m'arrête, lorsque je m'arrêtais et je réfléchissais, je me rendais compte que j'étais en train de changer. J'étais en train de changer. Ce n'était pas une baguette magique qui a fait de Christiane colérique une Christiane sage. Non, mais tout doucement, il y avait un changement. L'atmosphère à la maison changeait. La paix s'installait. La joie prenait beaucoup de place. Et mon état d'esprit n'était pas le même, n'était pas le même. Alors, sans m'en rendre compte, jour après jour, je laissais beaucoup de place dans ma vie et je lui faisais confiance de plus en plus. Pourquoi je dis ça? Je me perds dans mes feuilles. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, il travaille dans nos vies comme il le veut. Il respecte aussi notre personnalité. Il nous laisse discuter. Il nous laisse parfois nous révolter. Et le jour où pour lui, il y a une opportunité, paf, il vise, paf. Donc, ma première clé, j'étais à ma première clé, hein, c'était confiance en Dieu. Donc là, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait abstraction de ma fierté, j'ai fait abstraction de qui j'étais et j'ai fait confiance à Dieu. Et Dieu a commencé à travailler dans ma vie personnelle. Hein. Et il y avait des conséquences dans la vie de famille et dans la vie de couple. La deuxième clé, apprendre à connaître Dieu de plus en plus. Comment? Ben, en lisant sa parole, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, j'ai tout dedans. Là-dedans, j'ai tout. Bon, elle n'est pas très jolie, ma Bible, hein, mais qu'est-ce qu'elle a de la valeur? Ça, j'aime bien. Elle a de la valeur. La plus belle Bible que j'ai à la maison, je la garde, mais là, celle-là, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que, vous savez, je peux faire ça. Je peux la faire ça. Ça, c'est la Bible qui m'accompagne. Et alors, quand j'ouvre là, cette parole, je lis. Je m'arrête. Si je ne comprends pas, ben, Seigneur, éclaire-moi. Et je la médite. Je mange. Je mange la parole de Dieu. Je me rassasie. Qu'elle est bonne. Qu'elle me fait du bien. Miam, 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 miam. Oh, ça, c'est formidable. Formidable. Et quand je médite sa parole, j'arrive à avoir un objectif clair pour ma vie. Ma vie, elle est importante aux yeux de Dieu. On n'est pas des nuls. On n'est pas des moins que rien. On est la créature de Dieu. On a lu, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le proclamer, il faut le proclamer devant Satan. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et en parlant ainsi, je soumets ma vie à Dieu. Dieu est ma colonne vertébrale. Je marche dans la droiture, dans la sagesse, dans la justice de Dieu. Je me tiens droite devant Dieu. Je ne suis pas courbée. Oh non, ça va pas. Oh non, ça va pas. Je suis droite. Vive dans un état constant de soumission à notre Dieu. Et je reconnais que sans l'intervention du Saint-Esprit, je ne peux pas vaincre le pouvoir du péché. Moi, avec mes forces naturelles, je ne peux pas vaincre le pouvoir du péché. Mais avec le Saint-Esprit, Dieu en moi, j'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Amen. Alors, c'est une étape primordiale dans notre foi. Apprendre à connaître Dieu. Et ça me met en relation directe avec mon Père. Si nous marchons avec Dieu et nous négligeons pas cette étape, Dieu nous conduit dans des endroits, dans des endroits incroyables. Incroyables. Moi, jamais j'aurais cru, quand je suis allée là, à cet appel, quand j'ai répondu à cet appel, j'ai jamais cru que mon parcours sera aussi beau, aussi riche, aussi rempli d'embûches. Mais avec Dieu, on est là, on tient debout, on tient debout, parce que mon engagement, je le garde et je le travaille. Alors, je reprends. Dieu nous conduit dans des endroits incroyables qui nous permettent de faire des expériences de manière extraordinaire. De choses ordinaires, il nous faut vivre des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Et Dieu est notre potier. Il a l'argile là entre les mains. Et il nous façonne, il fait des vases. Nous sommes tous de beaux vases. Et dans ces vases, eh bien, il met les fleurs qu'il veut. J'aime les fleurs. J'aime les beaux bouquets. J'aime quand Dieu intervient. J'aime. Parfois, je prends une rose, pouf, et je me pique. Oh là là, ça fait mal. Bon, on fait un petit bobo et puis c'est bon. Je prends une marguerite. Un lys, oh j'aime le lys, oh parce que le lys pour moi c'est une fleur avec une connotation royale. Nous sommes vraiment des personnes importantes aux yeux de Dieu. Alors la troisième clé, la prière, mes amis, la prière. Oh. Alors, la prière sous toutes ses formes. La prière à la maison. Je peux prier en repassant. Oups. Moi, maman de famille nombreuse, qu'est-ce que je faisais? Ben, je repassais sur chaque pièce. Seigneur, bénis Jérémy. Seigneur, bénis Virginie. Bénis Nathalie. Bénis Amélie. Bénis Aurélie. Bénis Noémie. Béni Alexis. Et parfois, je voyais, oh là là, il y a une tâche, là. Non, mais c'est en tant que mère au foyer, on a beaucoup de possibilités pour prier. Je priais beaucoup dans ma baignoire. Maintenant, j'en ai plus. Donc, c'est plus court, c'est sous la douche, c'est beaucoup plus court. Tant que j'avais mes enfants à la maison dans la baignoire, c'était mon lieu de prière et la salle de bain. Je m'enfermais, je criais à Dieu, je priais, tout ça. Et pour les hommes, c'est la même chose. Vous faites du bricolage ou quoi, il y a plein de moyens pour se mettre en prière. Restons 24 heures sur 24 heures connectés à Dieu. Pas à l'ordinateur et à Internet. Moi-même, je dois faire attention, je dois faire abstraction de, parfois d'aller sur Internet parce qu'on est faible. Hein? Donc, on doit se faire violence. La prière en groupe. Oh, on n'aime pas prier devant quelqu'un. Oh, vous voyez que moi, je n'avais pas envie de prier à côté de ma maman. Et Dieu m'a... La prière en groupe, ça, c'est formidable. Elle nous stimule. Elle nous propulse vers l'avant. Quand j'entends parfois des prières, je dis, waouh, quelle belle prière. Mais quelle foi, Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas pour juger. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle a comme foi, cette femme. Waouh. Alléluia. Pourquoi la prière ensemble est-elle si importante? L'Église est un corps constitué de plusieurs membres. Nous sommes l'Église de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous faisons partie de la grande famille de Dieu par le biais de l'Église locale. Alors c'est important de venir aux réunions de prière. On se retrouve ensemble. On a des moments où on dit voilà, on va prier pour tel et tel sujet. Tous ensemble. Ouh, ça déménage. Et là, depuis 15 jours, ça déménage à la réunion de prière. On est entre 20, 25 personnes. Alors moi, je dis, Seigneur, toute l'Église doit prier. Et lorsque nous avons commencé à la source, à Waterloo, en 90, on a eu un réveil impressionnant. Eh bien, les réunions de prière, il y avait autant de monde aux réunions de prière qu'au culte. Mais c'était merveilleux. Et les gens venaient avec les enfants. Waouh, c'était sublime. Alors que Dieu envoie un feu, un souffle pour renouveler tout ça. La victoire a été assurée par l'ensemble des enfants. Quand on reçoit une victoire, quand on prie pour une chose et qu'on a reçu la réponse positive, eh ben, la victoire, ce n'est pas pour une personne, c'est pour toute l'Église. C'est toute l'Église qui est concernée. Quand vous avez prié pour Antoine, moi je priais, ma famille priait, mais vous vous êtes mis avec nous. C'est l'Église qui a prié pour lui. Aujourd'hui, il est là. Alors, c'est pas la victoire, elle est assurée, mais pas pour une personne, mais c'est l'ensemble. L'ensemble. Ensemble, nous nous réjouissons et les enfants de Dieu sont propulsés tous ensemble dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, ce n'est pas que le pasteur et son équipe, mais c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Le pasteur n'est rien sans son équipe et sans le troupeau. Le troupeau, un berger, si je dis que je suis bergère et je n'ai pas de moutons, ben, je ne suis pas bergère. Je peux bien avoir la canne, la houlette, là. Je peux bien avoir l'habit de bergère. Je peux bien avoir un chien ou deux. Mais si je n'ai pas de moutons, je ne suis pas bergère. C'est simple, hein? Donc, l'Église, si un pasteur est là et dit « Je suis pasteur », il n'y a pas de membre, ben, il n'est pas pasteur. C'est ça, c'est un titre. C'est un titre qui ne se donne point. Donc, l'Église est importante. Ce n'est pas pour donner du travail au pasteur, non. Mais quand il est berger, quand il a reçu un appel de Dieu pour être berger, eh bien, Dieu donne les moutons, les brebis. Thierry, t'es un mouton. Alors, et Dieu va réaliser son plan. Alors, j'ai une quatrième clé Ça, c'est moi. La réjouissance. Alors, vous allez me dire, se réjouir. Ben oui, l'apôtre Paul nous dit. Alors, je vais vous donner quelques points de réjouissance. Réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est la première chose. Réjouissons-nous de la divinité de Dieu. Dieu est divin, il est saint, il est glorieux, il est majestueux, il est créateur, il est... Ouh, il y a plein de choses. D'accord ? Réjouissons-nous de la bonté de l'Éternel, de sa sainteté, de sa fidélité. Réjouissons-nous de tous les bienfaits de Dieu. Ça, c'est chacun peut faire un calcul. Réjouissons-nous de l'épreuve par laquelle nous traversons. Oh, c'est pas facile de traverser l'épreuve. Mais pendant l'épreuve, Dieu nous met à l'épreuve. Il nous enseigne. Il nous enseigne pendant l'épreuve. Réjouissons-nous de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Réjouissons-nous car nous sommes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. On a un ministère là, annoncer la bonne nouvelle aux perdus autour de nous. Réjouissons-nous de nos faiblesses momentanées car nos faiblesses, car dans nos faiblesses, Dieu nous fortifie. On n'est pas toujours à 100%. Parfois, on fléchit un peu. Mais Dieu, il est là. Il nous donne un coup de pied au derrière. Allez, avance. Ah, c'est pas facile, mais ça va. Réjouissons-nous pour notre transformation, pour la transformation de nos proches, la transformation de nos amis et bien d'autres qui nous entourent. Réjouissons-nous car nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Réjouissons-nous car il ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle. Réjouissons-nous pour l'Église, pour le corps de Christ qui progresse de jour en jour. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Et l'apôtre Paul dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ça, chers amis, c'est une arme contre laquelle Satan il est vaincu. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et si le peuple de Dieu, ici-bas sur terre, se réjouit, eh bien, on va grandir, 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 et il y aura des exploits autour de nous, en nous, autour de nous, parmi nous. Et je reviens sur ce premier verset qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ben pour ça, je me réjouis. Amen. Et on va se réjouir, les amis. On va se réjouir. Alors, j'ai changé de direction. J'ai tourné le dos à mon passé. J'ai pris la décision de suivre Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai pris la décision de suivre Jésus à 17 ans et demi. Aujourd'hui, j'en ai 70. Et aujourd'hui, devant vous, je vous dis de nouveau, je suivrai Jésus-Christ jusqu'à mon dernier souffle. Car j'ai tourné le dos à mon passé. Dieu m'a renouvelé. J'ai encore un petit verset sur Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. On peut peut-être se lever. Et on va lire ce verset ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors maintenant, mes amis, Satan n'a plus de place. Il n'a plus de place dans nos vies. Il n'a plus de place. Alléluia.